Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'était jadis la capitale mondiale de la lune de miel, une destination prisée des nouveaux mariés. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Niagara Falls, bien au-delà des fameuses chutes.
L'éternelle source d'inspiration pour les touristes, les jeunes mariés, les amateurs d'escalade et les casse-cou qui font le plongeon dans des tonneaux, la cataracte est la pièce maîtresse de tout le système des Grands Lacs. Les chutes du Niagara ont été créées il y a moins de 10 000 ans, au moment où la fin de la période glaciaire a mis à jour le Grand Escarpement.
Extrait du documentaire « Du Grand Large au Grand Lac », une production de l'ONF en 1982. Elles attirent en moyenne 14 millions de visiteurs chaque année et sont une source inépuisable de superlatifs. 3 000 tonnes d'eau par seconde, 110 000 mètres cubes par minute, 323 mètres de large. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, Niagara Falls est aussi devenue depuis plus de 200 ans la capitale mondiale de la lune de miel. Un lieu mythique qui attire les amoureux du monde entier, entre royaume du kitsch et nature grandiose.
Voilà, ce fracas, pour les comptables, c'est à chaque seconde 1 million de gallons, 45 000 hectos qui font une chute verticale de 50 mètres. Ce spectacle-là, il est immuable. Mais tout le reste qui est autour, là où s'aventuraient jadis les coureurs de bois, fourmillent aujourd'hui comme des moustiques les guides pour touristes et les chauffeurs d'autocars. Les nobles indiens, impassibles et fatalistes, ont cédé ce dernier joyau de leur empire aux amoureux et aux photographes amateurs de 9 provinces et de 48 États.
La voix d'un très jeune René Lévesque à l'époque en direct de Niagara Falls, c'était à notre radio en 1948. Alors pour nous parler de l'histoire des chutes du Niagara, mon invité Serge Dupuis, il est historien, membre associé de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord à l'Université Laval. On le joint d'ailleurs dans nos studios à Québec. Bonjour Serge.
Bonjour Maxime.
Alors, je sais que vous êtes vous-même originaire du nord de l'Ontario, de la région de Sudbury. J'imagine que vous avez déjà visité les chutes du Niagara. Est-ce que c'était presque un passage obligé pour les jeunes Ontariens?
Oui, ben, je les ai visités, je crois, j'avais 8 ans. J'avais toujours su que mes grands-parents avaient fait leur lune de miel là en 1954.
Ah oui.
J'ai récemment découvert que les grands-parents de ma conjointe aussi ont passé leur lune de miel à Niagara Falls en 1946. Et dans les deux cas, les premiers enfants sont nés 9 mois plus tard.
Ah ben tiens, hein, ils n'ont pas perdu de temps. Enfin, ils ont été des milliers comme ça, il faut le dire. Hein, ils n'ont pas été les seuls. Alors parlons des origines. Ça date de quand, les chutes du Niagara?
Elles ont été formées il y a 14 000 ans, comme on l'entendait dans l'extrait au début. Et ça a permis, en fait, au Grand Lac supérieur de se déverser vers l'océan par la rivière du Niagara. Il y a deux chutes. Hein, on dit les chutes du Niagara parce qu'il y a la chute canadienne et la chute américaine. Celle qui est la plus photographiée d'habitude, c'est la chute canadienne ou le fer à cheval,
oui.
Qui est la plus large et où passe 90 % de l'eau. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais en fait, il faut voyager vers le côté canadien pour observer et apprécier les chutes parce que du côté américain, on voit pratiquement rien. On voit l'eau se déverser vers, dans la chute américaine vers la rivière, mais on ne voit pas la chute. Et puis, on voit seulement une petite partie là, du fer à cheval. Donc, la beauté se voit de la berge canadienne et d'où le développement de cette côte-là dans le 19e et 20e siècle.
Oui, du côté canadien, beaucoup plus que du côté américain. C'est aussi, à l'époque, un lieu symbolique pour les Autochtones. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Niagara?
On dit que ça voudrait dire le tonnerre d'eau là où la rivière se rétrécit. Ce serait à peu près ça, mais tonnerre d'eau, là, c'est vraiment l'image que Niagara cherche à évoquer. Et c'est le nom qui a été retenu pour la chute, pour la rivière et le fort que les Français ont érigé là au début du 18e siècle parce que c'était un lieu de portage à l'époque coloniale pour rejoindre les lacs Érié, Huron, Michigan et Supérieur. À partir de 1825, les navires peuvent accéder au lac Érié par le canal Érié qui a été est construit, qui traverse le New York d'est en ouest, qui relie la rivière Hudson au lac Erie. Et à partir de 1855, on a accès au lac supérieur aussi, parce qu'il y a un autre canal qui a été construit là-bas. Il y a un canal Welland du côté canadien qui permet la navigation des bateaux du fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario vers les Grands Lacs. Mm-hmm. Donc, Chicago, Thunder Bay, toutes ces villes-là deviennent accessibles à la mer à partir des années 1820, mais aussi accessibles à une certaine élite qui s'y est rendue pour faire du tourisme dans la première moitié du 19e siècle.
Oui, tout à fait, mais on comprend que ça a été pendant très, très, très longtemps un obstacle naturel. Hein? C'est un lieu aussi qui va très vite impressionner les premiers explorateurs, parce qu'on imagine à l'époque, sans le développement actuel, oui, c'est extrêmement impressionnant, les chutes du Niagara.
Oui, oui, oui. Et le débit d'eau est au moins deux fois plus élevé à l'époque, hein? Parce que ce qu'on voit là ou ce qu'on a visité au 20e siècle, c'est après le barrage hydroélectrique qui a été construit en 1893 et où on a réduit l'eau. On réduit l'eau d'au moins 50 % pendant le jour. On laisse passer à peu près 75 % de l'eau la nuit et l'hiver. Donc, en fait, il paraît que c'est plus bruyant la nuit, mais en fait, c'est fait pour que ce soit plus beau le jour, mais aussi pour réduire l'érosion, parce qu'il ne faut pas oublier même la chute du fer à cheval, le recul d'1,2 mètre par année. Donc, si vous les avez visités en 1993 comme moi, la chute était 40 mètres plus avancée qu'elle ne l'est maintenant.
Ah oui.
Oui, donc, oui, oui, les chutes étaient d'ailleurs même pas à Niagara Falls, je crois, si on recule quelques centaines d'années. Donc, elles étaient un peu plus au nord, ce qui veut dire qu'elles vont continuer à reculer, même si ça ne s'observe pas là, à l'œil nu d'année en année.
Tout à fait. En tout cas, plus tard, les écrivains, les poètes seront eux aussi inspirés par les célèbres chutes. Un exemple ici, Chateaubriand, lors de son voyage en Amérique du Nord, c'était en 1791, précédé d'un poème, celui de Louis Fréchette, Niagara, 1868. C'était présenté par deux comédiens à notre radio en octobre 1948.
C'est la chute. Son bruit de tonnerre fait peur même aux oiseaux errants qui s'éloignent en foule du gouffre formidable où l'arc-en-ciel déroule son écharpe de feu sur un lit de vapeur.
C'est encore dans un récit de voyage que j'ai lu en vulgaire prose la description la plus impressionnante du Niagara. À une petite distance en aval du dernier rapide, de larges lits s'arrêtent en terrasse à pic et l'énorme masse liquide tombe dans le gouffre. Une cascade, une chute, une cataracte? Combien termes ne sont ces noms pour exprimer un phénomène aussi grandiose? Une avalanche colossale, plutôt. Deux avalanches, séparées par l'île boisée des chèvres. Une quantité si prodigieuse d'eau se précipitant dans le vide que son premier jet remplirait un grand lac.
Voilà, ben on entend un phénomène grandiose et deux chutes. Hein. Une nature indomptable qu'on va tenter de dompter à coup d'exploit. À partir de quand on se lance comme ça, comme défi, par exemple, de traverser, de marcher au-dessus de la chute sur un fil de fer ou de se jeter dans un baril?
Bien, ce serait dès le début du 19e siècle parce que l'exploit le plus connu est celui de Charles Blondin qui, le 30 juin 1859, est sauté sur une corde, justement. L'orchestre entonnait la Marseillaise et puis on disait qu'il a marché 150 verges, qu'il a fait semblant de tomber, puis là, s'est raccroché, s'est assis, a laissé passer une corde vers la petite croisière Made of the Mist, a remonté une bouteille contenant quelque chose, on ne sait pas quoi, il a bu, puis il s'est retourné vers la rive canadienne. Et c'est ce genre d'exploit-là qui attirait les foules, qui attirait une certaine élite. Ça a attiré l'attention médiatique au point où le prince de Galles, l'année suivante, justement, est revenu aux chutes du Niagara, et puis Charles Blondin a répété l'exploit pour lui. C'est devenu un problème. Il y a eu des accidents, il y a eu des décès.
Oui.
Et ça a été permis jusqu'en 1912. À partir de 1912, justement, les cascades dans les barils sont interdites par la loi. Mais c'est une façon d'évoquer le danger, le fantastique, ce qui est interdit. Mm-hmm. Déjà là, au 19e siècle, cette idée-là est déjà implantée dans la représentation qu'on fait des chutes du Niagara.
Oui, alors pousser les limites. Hein? Et c'est rapporté dans les journaux, ces exploits. Il y aura des milliers et des milliers de personnes qui vont assister aux exploits de Charles Blondin. Donc, oui, un lieu exceptionnel, une merveille qui va, bien sûr, attirer les jeunes mariés. Alors, pourquoi Niagara? Pourquoi les chutes attirent les nouveaux mariés?
On ne sait pas exactement comment ça a commencé. On dit que Jérôme Bonaparte, le fils de Napoléon, a fait sa lune de miel là, en 1804. Donc déjà là, ça remonte il y a très loin. Mais au 19e siècle, par de nombreux auteurs, en fait, le lieu est associé à la sexualité. Puis les anecdotes racontées aux touristes font état de la mort d'une jolie vierge autochtone sacrifiée nue dans un canot abandonné au courant. C'est un peu morbide comme histoire. On ne sait pas si ça s'est vraiment passé, mais ça cherche à évoquer, comment dire, l'attraction fatale des eaux, les légendes de mort. Et puis, le lien entre ce qui est romantique, épeurant et sexuel à la fois. Mm-hmm. Et puis l'historienne Karen Dubinsky a consacré un livre à la construction d'une représentation des chutes qui s'est traduit en réalité par rapport au tourisme qui s'est d'abord développé chez l'élite, puis ensuite dans la classe moyenne et beaucoup plus tard chez les classes populaires. Oui. Mais déjà au 19e siècle, il y a des conflits entre les entrepreneurs qui cherchent à exploiter le lieu à des fins commerciales et le gouvernement, les gens qui aujourd'hui on les appellerait des environnementalistes, mais les gens, on appelait ça la conservation au 19e siècle, mmh. les gens qui veulent préserver les joyaux naturels du Canada. Et c'est d'ailleurs le premier parc provincial qui est créé au pays en 1885. Ah oui. Il entoure les berges des chutes du Niagara. Et bon, c'est une façon de freiner ou de ralentir la surexploitation des chutes. Donc, déjà en 1885, là, il y a une espèce de problème qui existe là, sur ce site-là.
Mmh. Oui, tout à fait. Mais bon, ça ne va pas empêcher la ville de se développer. On va y revenir. Mais très vite, oui, Niagara devient la destination des nouveaux mariés. Pourquoi? Ben, vous l'avez dit, bon, légendes autochtones, toutes sortes de récits. Mais même les résidents de la place ont du mal à l'expliquer. Un exemple ici, reportage de l'émission Canada Express, c'était à notre télé en octobre 1967.
Bien, c'est tout simplement une espèce de tradition qui s'établit avec le temps, sans qu'il y ait trop de raisons spéciales, excepté les chutes mêmes et puis la beauté de l'endroit.
On me dit que ça vient de vieilles dates, même avant que les autos, qu'il y ait des autos et tout ça, les gens d'alentour venaient en cheval, comme voir les chutes pour faire un voyage, quoi. Alors, ça a continué.
Parce que les chutes sont... C'est une grande attraction. Et tout le monde veut la voir une fois dans la vie et ils pensent que c'est la seule chance qu'ils ont, c'est venir faire le voyage de noces.
Donc, à l'origine, hein, c'était plutôt des membres de la bourgeoisie, mais le développement de l'auto va transformer la clientèle. Alors, qu'est-ce qui fait que ça explose au lendemain de la Seconde Guerre mondiale?
Bien, les premières routes qui ont été développées en Ontario, au Québec, liaient Montréal et Toronto à la frontière américaine.
Ah oui.
Donc, il y avait des objectifs commerciaux derrière tout ça, mais aussi mm-hmm. touristiques pour attirer, parce que les gens qui avaient des automobiles dans les années 1910, 20 et 30, c'est des gens qui avaient des moyens. Et donc, ils pouvaient se permettre des vacances et se permettre de se déplacer. Donc, la première route qui lie Toronto à Buffalo, New York, c'est en 1910. En Ontario, le pont de la paix en 1927. Et même la première autoroute à chaussée double au Canada qui a été construite, le Queen Elizabeth Way, lie Toronto à la frontière du New York et passe par les chutes du Niagara. Donc, comme quoi, on veut conserver l'endroit, mais on veut aussi en tirer des profits. Donc, on permet au développement des motels, des restaurants et aussi des attractions un peu loufoques, comme le musée de cire là, de Louis Dussault ou oui. Ripley's Believe It or Not, qui est un musée qui est bourré de curiosités. Puis, il y a un zoo aquatique, Marineland, qui est développé au début des années 1960. Donc, on en a fait une destination touristique pour que les gens puissent passer un week-end, peut-être à la limite même une semaine, mm-hmm. Parce qu'une fois les chutes appréciées, visitées, on a peut-être pris la croisière,
il faut trouver
des raisons pour garder le monde là, pendant quelques jours. Et la ville est complice là-dedans.
Elle
tire des revenus de tout ça. Une partie de sa croissance repose là-dessus. Donc, à partir des années 1920, déjà, la destination est accessible par l'automobile, par autoroute. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec la prolifération de l'automobile individuelle, bien, il y a beaucoup plus de gens qui pouvaient se permettre une vacance, ne serait-ce que pour un week-end, parce que la destination n'est pas tellement lointaine. Hein. C'est peut-être à 7-8 heures de Montréal, 7-8 heures de New York, c'est à quelques heures de Toronto, puis les villes de l'Ontario. Donc, c'est une lune de miel qui est, entre guillemets, abordable la classe ouvrière.
Oui, tout à fait, qui n'est pas très loin. Démocratisation des vacances aussi, hein, pour la classe ouvrière dans les années 50. Et il y a aussi, ça inspire plein de monde. Et là, c'est l'âge d'or peut-être de Niagara. C'est aussi le titre d'un film célèbre qui met en vedette Marilyn Monroe en 1953. On va en écouter un extrait.
C'est nature ou avec du rhum?
Non, on le prend nature. Est-ce que vous en voulez?
Non, merci.
Dites donc, cette chanson a l'air de vous plaire, Madame Loomis.
C'est la seule chanson qui existe.
Voilà, Niagara, avec l'image sensuelle de Marilyn Monroe. Vous l'avez évoqué plus tôt, hein? Il y a toute cette imagerie aussi, la force de ces chutes-là, quelque chose de très sensuel, très sexuel même par rapport aux chutes du Niagara.
Oui, puis en fait, il a fallu que je me retienne pour faire là, trop de blagues cochonnes pendant cette émission-là, parce que, je veux dire, c'est partout, là, les sous-entendus, même sur l'affiche du film Niagara 1952, on dit qu'un torrent d'émotions que même la nature ne parvient pas à contrôler. Marilyn Monroe et Niagara. Le corps de la star se confond avec les chutes. Donc, je veux dire, le message ne peut pas être plus clair. C'est presque pas du second degré. Donc, l'association qu'on fait entre les chutes, la fertilité, si on veut, et le mariage, la lune de miel, comme le permis à l'époque pour entretenir des relations sexuelles, hétérosexuelles, bien entendu, à l'intérieur du mariage. Oui. C'est une image, je pense, qui permet d'anticiper aux fiancés, justement, la vie de marié.
Oui, mais lui, en tout cas, de quoi attirer les jeunes mariés, qui attendent impatiemment cette nuit de noces. Un exemple ici, toujours tiré de ce reportage en 1967, puis du téléjournal James Bamber, à notre télé également en 83.
Et nous nous sommes mariés samedi matin, et puis on avait beaucoup entendu parler des chutes Niagara. D'ailleurs, ma sœur est venue faire sa lune de miel ici. Elle nous a donné des bons conseils. Elle nous a dit que le site était enchanteur, qu'il y avait beaucoup de monde, ce qu'on a vu d'ailleurs. Et puis...
Beaucoup de choses très intéressantes à voir.
Le soir, après avoir les chutes, c'était bien beau. C'était vrai. D'accord?
Ah, c'est fantastique. Tout est merveilleux. C'est très, très beau. Fantastique.
On parle des chutes Niagara, là.
Quand on arrive à Niagara, tout nouveau, quoi. On trouve tout beau. Et puis, les chutes sont le plus beau, quoi. Mais tout a tellement grandi, beaucoup de nouveaux motels, beaucoup de choses, comme dans le... partout ailleurs, hein? Le progrès.
Et James Bamber, journaliste, d'ajouter plus tard dans ce reportage en parlant de Niagara, et là, je le cite, « La ville fait bizarre, elle fait bazar, elle fait, comme disent les Anglais, very, very busy. » Alors, comment se fait le développement de Niagara Falls? Comment se fait le développement de la ville?
Bien, c'est un peu chaotique. Et puis, on dirait que les autorités publiques ne planifient pas nécessairement tout ça. C'est plutôt en réaction qu'on essaie d'encadrer, notamment avec le parc provincial, notamment avec les règlements sur le débit d'eau. On essaie de préserver la destination. Puis, on essaie aussi de la développer, d'attirer les touristes. Donc, c'est assez, comment dire, ça se fait. C'est largement mené par le commerce, par l'industrie. Et l'élément impressionnant finit par être perdu, comme on le voit là, un peu. Là, ça finit par être vu comme étant de mauvais goût. Il y en a comme trop qui est mis, il y en a trop qui est développé.
Oui.
Et la dimension naturelle de l'endroit est un peu perdue derrière tout ce bruit-là. Un bruit qui se rajoute justement aux chutes qui sont déjà bruyantes.
Oui, c'est tout clinquant, là. C'est-à-dire les motels, les arcades, les maisons hantées. On en fait une espèce
même aussi... même aussi tard que 2004, on a rajouté un casino, donc qui rajoute à cette image-là de Vegas du Nord.
Oui, oui.
Donc, il y a une partie de la population qui peut se permettre d'aller ailleurs qui finit par dénigrer l'endroit, à le montrer comme étant peu désirable. Et ça, ça se passe dans les reportages de Radio-Canada dans les années 60 et 70.
On l'entend, il y a un ton très, très, très ironique.
Les prix du peuple,
en 1967. C'est drôle parce qu'on a fait un épisode l'an dernier, vous et moi, sur les plages du Maine des Old Orchard Beach. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même phénomène qu'Old Orchard.
C'est le même ton.
C'est-à-dire que c'est le même ton. C'était une destination chic. Même chose pour le Maine. Au début, c'était la bourgeoisie, les gens bien qui allaient dans leur résidence d'été. Et du moment où les classes populaires se mettent à y aller, ça devient un royaume du kitsch aux yeux de certains.
Parallèlement, il y a eu des efforts pour redorer le blason de la région et de mettre en valeur, mettons, le patrimoine architectural, historique, culturel de l'endroit. Donc, on a parlé du Fort Niagara qui a été restauré à partir des années 1930. C'est un lieu historique national au New York. Il y a aussi le village de Niagara on the Lake qui, à partir de 1950, met de l'avant son architecture grégorienne associée à l'époque des loyalistes. Il y a le Festival Shaw qui est un festival de théâtre dans cette région-là qui remonte à cette époque-là aussi. Et il y a bien sûr les vignobles depuis les années 1970. Qui se sont développés. Donc, on présente les chutes, mais on présente autre chose aussi là, à partir de la fin du 20e siècle pour peut-être ramener cette élite-là qui boude la péninsule du Niagara.
Oui, oui. Ben, ils vont voir les chutes, puis ensuite, ils vont à Niagara-on-the-Lake parce que, bien sûr, ça fait bien. Les vignobles, c'est
voilà, chic, beaucoup plus que Clifton Hill et puis les musées de cire.
Oui, bien sûr. Hein? En tout cas, mais il reste que ça demeure un site exceptionnel, on le dit, et des chutes exceptionnelles. Mon invité, je rappelle, Serge Dupuis, il est historien, membre associé de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord. C'est à l'Université Laval à Québec. Il nous parlait d'ailleurs depuis nos studios à Québec. Merci, Serge.
Merci à vous.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la recherche Ariane Léonard, Guillaume McSween, recherche d'archives Jacinthe Mayotte, Sophélène Gibson, site Internet c'est Ronald George, la mise en onde Jean Lemieux. Aujourd'hui l'Histoire est une émission de Jacqueline Castonguay. Si vous avez envie d'écouter ou bien de rattraper nos émissions, je vous le rappelle, vous pouvez toujours le faire sur notre site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou bien en balado sur notre application Radio-Canada Audio. Et puis vous pouvez également nous suivre, nous écrire, c'est toujours un plaisir de vous lire sur Facebook ou encore l'adresse suivante, le bon vieux courriel, histoire à commercial radio canada.ca. On va se laisser en chanson, ça résume bien cet épisode de Muriel Millard, Les Chutes Niagara, ça date de 1962. Ici Maxime Coutier, merci d'avoir été là. Bonne soirée, à une prochaine, au revoir.
Depuis longtemps je rêvais de voyage, dans tous mes rêves je me revoyais partir le jour de mon mariage avec l'homme que j'adorerais, visiter les chutes de Niagara. On dit que c'est beau par là, c'est un vrai régal pour le plaisir des yeux, le site idéal pour les amoureux. Maintenant que je suis fiancée, mon beau rêve je vais réaliser. Tout est prêt, mes bagages sont faits. Tout de suite après la noce, je m'en vais visiter les chutes de Niagara. On dit que c'est beau par là, c'est un vrai régal pour le plaisir des yeux, le site idéal pour les amoureux. J'ai reçu les conseils d'usage, j'ai embrassé toute la parenté. On m'a souhaité un bon voyage et nous sommes partis le cœur léger. Je n'ai pas vu les chutes de Niagara, je peux pas dire que c'est beau par là. Tout ce que j'ai vu, mesdames et messieurs, c'est le gland des yeux de mon amoureux. Je n'ai pas vu les chutes, c'est bien malheureux, mais je m'en fous pas mal, mon cœur est heureux.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.